Le 7 juillet 2018, deux événements concomitants se produisaient. La France remportait les quarts de finale de la Coupe du Monde de football face à l'Uruguay et la VRAC de Millau accueillait l'exposition Court-Circuit de Thomas Turley. Nous avons choisi d'interviewer Thomas Turley, mais la ferveur footballistique n'était jamais très loin, comme vous pourrez le remarquer à l'écoute de cet entretien. Thomas Turley, vous présentez à la VRAC de Millau jusqu'au 6 septembre une installation intitulée « Court-circuit ». Est-ce que vous pouvez nous présenter cette installation ?
Alors, c'est une installation qui est constituée d'un luminaire avec un tube fluorescent, une bouteille de bière cassée qui goûte sur les fils électriques de cette même lumière, qui sont dénudés. Et à chaque fois qu'une goutte de bière tombe sur les deux fils, ça agit comme une sorte d'interrupteur. Donc la lumière commence à s'allumer en même temps que le courant passe, il vaporise l'alcool, donc il le redistille en fait. Et sur ce tube fluo, il y a un micro magnétique qui est accroché, qui est un micro qui capte pas les bruits ambiants, mais qui capte les changements d'ondes magnétiques, c'est-à-dire le courant, des choses comme ça, qui est relié à un ampli de basse qui joue donc le champ de l'électricité. C'est comme une sorte de perfusion lumineuse en fait à chaque fois. Comme un espèce de battement de cœur, la lumière s'allume à chaque fois qu'une goutte tombe et l'ampli crache une espèce de basse qui s'entend de l'extérieur de la vitrine.
Comment s'élabore une installation comme celle-ci ? Est-ce que il y a une idée générale au départ ou est-ce que les choses se construisent petit à petit ?
Non, comme dans pas mal de choses dans mon boulot, c'est vraiment empirique, c'est vraiment... Je zone à l'atelier, j'essaye des trucs et... Il y a des intérêts, enfin, il y a des questionnements généraux. Par exemple, là, c'était l'idée à la base, c'était de... C'est une pièce que j'ai commencé à travailler à l'école encore. Je me demandais comment présenter les pièces de mon diplôme alors que je n'aimais pas l'éclairage de la salle. Et je m'intéressais un peu à toutes les questions de théâtralité, comment amener une dimension théâtrale sans dramaturgie, sans mise en scène, juste avec des objets. Quoi. Et... Je m'intéressais aussi entre l'espèce d'écart qu'il peut y avoir entre des tout petits phénomènes et des créations, la création des faits, genre wagnérien ou un peu de l'ordre du sublime comme ça. Et alors je sais pas comment ça m'est venu, à quel moment ça m'est venu, mais j'ai commencé à dénuder les fils de l'éclairage de la salle et à cracher dessus ou à mettre un peu d'eau dessus. Et j'ai remarqué cet effet qui était assez beau de... Toutes les lumières de la salle se mettaient à clignoter comme si les noms étaient en fin de vie, un petit peu comme on voit dans des vieux parkings ou dans un commissariat, je sais pas, enfin une ambiance un peu glauque comme ça. Et voilà, c'est parti de ça en fait. Mais c'est vraiment de l'empirisme et de l'expérimentation à l'atelier.
Est-ce que ça veut dire qu'au départ vous n'avez aucune formation technique et que vous découvrez les choses au fur et à mesure ? Ou est-ce que vous pressentez à l'avance, enfin l'expérience fait que vous pressentez à l'avance des effets que vous allez pouvoir reproduire ?
Bah, je pressens toujours plus ou moins des effets, mais c'est sans formation technique et il y a toujours une formation sur le tard en fait. Quoi. C'est la formation YouTube, beaucoup de YouTube. Après des copains ou des artisans que je croise à qui je demande comment on peut faire ça. Encore une fois, c'est très empirique et très, très, très large. Quoi. Ça va de la plomberie à l'électronique, à l'acoustique, mais à chaque fois, c'est vraiment très dilettante. Quoi. Je suis un expert en rien, quoi. Je suis juste une curiosité quoi, dans plein de domaines.
Et est-ce que l'idée d'associer de l'organique avec du mécanique et de l'électronique, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous reproduisez systématiquement ou c'est en fonction des besoins ?
C'est souvent présent. Donc c'est pareil, il n'y a pas de concept derrière ou quoi. Je pense que c'est un état des choses que je ressens au quotidien qui se transmet là-dedans, quoi, cette pratique. Des espèces d'hybridation entre la technologie biologique, les odeurs, le feu, tout un tas de choses comme ça.
En regardant vos œuvres, on pressent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Je ne sais pas si c'est fragilité le bon mot, mais au moins...
Précarité, quoi.
Oui, voilà, quelque chose de précaire, en fait, dans l'installation, qui fait que, bon, bah, ça marche, mais que le moindre événement pourrait venir perturber la chose.
Ouais, puis ça marche pas toujours, en plus, il y a souvent des accidents et des pannes, mais à chaque fois, je me dis plus jamais, parce que souvent, ça tombe en panne la veille du vernissage, ou enfin, ça tombe toujours au mauvais moment, mais du coup, c'est beaucoup de stress et d'émotions et machin, mais les choses fixes m'intéressent pas vraiment, en fait, quoi. Mais c'est pas non plus une prise de risque pour la prise de risque, c'est juste c'est intéressant d'être sur la brèche aussi, pour le boulot. Je pense que ça le fait vibrer différemment que si c'était quelque chose de vraiment installé et fixe.
Il y a une de vos œuvres qui s'appelle Bootleg, je crois,
ouais.
Qui est en fait, alors si j'ai bien compris, le produit de la fusion de plusieurs matériaux. C'est quelque chose que vous avez mis en œuvre d'une manière peu traditionnelle d'ailleurs. Hein. Le fait de fusionner des choses comme ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie dedans. Et puis l'espèce de bétonnière que vous utilisez là avec du feu, ça fait penser à la Tanor de l'alchimiste aussi.
Moi je me suis beaucoup nourri de. Des gravures alchimiques, enfin, c'est tellement vague l'alchimie, et puis il y a aussi énormément de gens qui sont juste un peu barrés dans l'ésotérisme et qui voient tout un tas de signes. Les alchimistes, c'était un peu des gens qui se questionnaient sur le monde et aussi sur sa composition physique, quoi, moléculaire, mais autant que sur sa composition politique et tout ça. Et c'était à une époque... où tout revenait à Dieu, au final. Ils ont dû inventer un langage et des formes pour pouvoir expérimenter et transmettre un savoir sans se faire brûler. Et du coup, ça les oblige à développer le langage des oiseaux, tous ces trucs-là. Toutes les gravures, elles sont hyper métaphoriques, mais quand on regarde bien, on sent des gens au travail et des gens qui se posent des questions et qui recherchent tout ça, quoi. Donc, il y a vraiment un intérêt pour la transformation des matériaux, au sens vraiment physique du terme, mais il y a aussi un intérêt pour un questionnement qui va au-delà de simple réaction physique. Parce qu'aussi les matériaux, ils ont du sens. Par exemple, dans le cas de Bootleg, c'était un projet que j'ai réalisé à Troyes avec Diane Blondeau et Vivien Roubaud sur un mois de résidence à Nice. Et nous, on avait tous un peu notre claque de la Côte d'Azur et il venait d'y avoir une grande tempête et tous les transats de la plage s'étaient fait exploser par une lame, ce qui fait qu'il y avait des centaines de transats à la décharge. Et nous, on se baladait avant ça dans une usine SNCF à Dijon, où Alstom fondait les pièces de train, et on a trouvé les moules qui forment la base de ces sculptures qui étaient hyper beaux, mais on ne savait pas quoi en faire. On savait qu'on voulait les couler, mais l'acier c'était trop cher et pas à notre échelle technique. On a essayé plein de trucs et au final on a fabriqué cette espèce d'Atanor bétonnière lance-flamme. On a trouvé que le plastique ça marchait bien, et c'est encore une fois, ça a été très empirique, et on s'est rendu compte, comme il y avait des chaises vertes, des chaises blanches, le mélange et tout, quand on a tiré les formes, ça ressemblait à des bronzes coulés, les bronzes antiques qu'on sort de la mer. Ils ont la même couleur, du coup, avec un truc méga cheap, ultra industriel, ultra dégueulasse, on arrive à retrouver une qualité de matériaux qui pourrait être au Louvre. Voilà, c'est un des intérêts.
Il y a aussi un questionnement qui est, il me semble, hein, de l'ordre de notre rapport aux techniques, à la technologie, aux objets.
La technique et les technologies, moi je m'en rends compte avec les formations YouTube et tout ça, et je fais pas partie d'un Fab Lab, mais j'échange beaucoup sur la fabrication avec des amis, tout ça. Je suis dans un atelier collectif, le Vendeur Liébert à Bagnolet, où il y a des musiciens, il y a une radio, il y a des ébénistes, des sculpteurs, tout ça. On récupère des vieux outils, on apprend à s'en servir, et Je trouve que c'est une récupération des savoirs au final, genre toute l'industrie et tout ça s'est construit en confisquant le savoir des artisans et aussi des artistes au final, en explosant la chaîne de fabrication. Et c'est pas un statement politique, c'est un état de fait, mais je trouve ça intéressant quand on contextualise ça par rapport à aujourd'hui, de se rendre compte que les gens réapprennent à se servir de la technique, l'échange, l'hybride, se la réapproprie en dehors du circuit industriel ou marchand.
Alors je me demandais, et bon, c'est pas du tout une question piège, c'est-à-dire que si ça ne suit pas, on coupera au montage, c'est pas grave. Je me demandais si vous aviez entendu parler des travaux de Gilbert Simondon.
Ben en fait, j'ai un pote qui m'a prêté son livre et ça fait un mois que je dois le lire, mais il est dans ma valise et j'ai pas eu le temps de le lire. Mais on a eu, justement avec cet ami-là, on a eu énormément de discussions où je lui disais tout ça. Et il m'a répété en boucle, il faut absolument que tu lis Simondon. Et il m'a prêté un livre que j'ai pas encore commencé, mais voilà, c'est une raison de plus pour y aller.
Voilà, il y a une autre pièce aussi qui m'interrogeait, c'est Europium. Donc elle était exposée à Turin. Ouais. Et en fait, à propos de cette pièce, je me demandais si quand vous faisiez une installation quelque part, si la mémoire du lieu avait une importance.
Bah là, la mémoire du lieu, elle n'avait pas vraiment de sens vu que c'était une fondation privée d'art contemporain. Mais,
non, mais je parle de la ville d'une manière générale, la ville de Turin.
Ouais, je ne l'ai pas pensé comme ça parce que avant d'expérimenter la ville, j'avais déjà prévu le truc. Mais c'est vrai que j'y ai passé deux mois, j'ai bien senti aussi cette histoire post-industrielle et cette espèce de ruine aussi, quoi, mais aussi des utopies. Enfin, j'ai visité la prison, je ne me rappelle plus son nom, mais maintenant c'est une prison qui se visite, mais c'est là qu'ils avaient enfermé tous les prisonniers politiques dans les années 60, et maintenant c'est un peu un musée, quoi. Et elle vibre encore de toute cette histoire, cette ville, quoi, c'est clair.
Peut-être on peut parler de l'installation en question, d'Europium.
Ouais, Europium, c'est du coup, c'était 5-6 tonnes de déchets informatiques qui sont dépiautés de manière artisanale. On m'avait prêté un hangar pour faire ça parce que je ne pouvais pas le faire sur place. Et je récupère tous les composants où il y a des terres rares, de l'argent, de l'or, tous les métaux précieux qu'il y a. Avec une formation YouTube approximative, je fais des bains d'acide, différentes étapes, tout pour séparer les métaux et les terres et tout ça. Les carcasses des ordinateurs s'entassent et deviennent une sorte de laboratoire de chimie où j'ai transformé un congélateur en paillasse ventilée avec les gants à travers. Tout sert comme des espèces de briques de construction, à une espèce de mélange entre une déchetterie, un laboratoire de chimie et un camp d'orpaillage. Et avec les métaux précieux récupérés, je me suis coulé un grill qui sont des dents en or de rappeurs américains. Où j'ai fait une formation d'orthodontiste. Pareil, j'ai acheté un DVD sur YouTube. Et du coup, il y a ces dents en or dans un petit coin de l'installation.
Il y a quand même, on parlait de précarité tout à l'heure à propos des installations, mais il y a quand même dans votre travail aussi une notion de prise de risque, même de mise en danger quelque part.
Ouais, mais après quand on travaille tous les jours avec, moi je fais plus attention. Et puis on sait jamais qu'une petite châtaigne électrique dans les doigts, quoi. Après, quand on monte quelque chose en public, on peut pas non plus se permettre que ce soit dangereux non plus, juste parce que ce serait dommage que quelqu'un meure, quoi. Mais par contre, une mise en tension, je pense qu'il y a un conditionnement de tout un chacun par rapport au danger. Dans les lieux alternatifs, c'est plus facile de faire des choses un peu sketchy, mais dans le moindre musée ou quoi, c'est vraiment c'est une espèce de chemin de croix pour montrer des trucs un peu dangereux, alors que ça ne l'est pas forcément. Et du coup, c'est intéressant de jouer avec cette paranoïa ambiante, que ce soit celle des spectateurs ou celle de l'institution et de la sécurité qui reçoit. J'ai fait un projet que j'ai jamais vraiment encore abouti, mais c'est en cours, sur l'odeur du gaz en fait. Le gaz à la base qu'on a, le gaz domestique, n'a pas d'odeur. Et c'est marrant, sur Wikipédia, il y a un petit paragraphe qui dit on avait ajouté une odeur de jasmin au gaz, mais pour des raisons évitantes de sécurité, on a remplacé par l'odeur du chou pourri. Et c'est mercaptan, c'est une famille d'odeurs qui est même en très petite quantité, va très loin et qu'on sent tout de suite. Et n'importe qui dans le monde, quand il sent cette odeur, ça passe pas par l'intellect, ça passe par le cerveau reptilien direct en fait. C'est vraiment le danger, faut que je me barre, qu'est-ce qui se passe et tout. Et au final, tout ça, c'est une illusion, enfin c'est un conditionnement quoi, qui passe par l'odeur, qui est aussi un sens hyper intéressant parce qu'il est, directement connecté à une mémoire antédiluvienne, avant même qu'on soit des hommes en fait, c'est le cerveau reptilien. C'est intéressant d'utiliser ces chemins détournés, que ce soit un son, une odeur, pour mettre en tension un corps, un espace. C'est toujours des questions de sculpture pour moi en fait. Sculpture, c'est la base, c'est la prise de conscience de son corps en face de quelque chose. Et aussi un rapport aussi à la pierre tombale, au marquage ou à la métaphore d'un passage ou de quelque chose comme ça. Et même si c'est des immatériels ou des odeurs, je pense que ça reste dans un questionnement classique quoi, de la sculpture.
Et cette idée de mise en tension ou de perception du danger, est-ce qu'elle n'est pas liée, en fait, est-ce que c'est pas une réaction à nos modes de vie aseptisés un peu, sécurisés on va dire? Non, il y en a qui vont se jeter dans le vide. Alors évidemment, dans l'art, c'est plus difficile de se jeter dans le vide, mais peut-être trouver des moyens justement d'approcher cette prise de risque.
Ouais, je pense que dans tous les cas, c'est pas non plus. Je me lève pas le matin en me disant je vais combattre notre mode. Mais il y a une réaction à ça, c'est clair. Et il y a une réaction, je pense aussi beaucoup au manque de sensualité au final. Que ce soit des odeurs ou des choses, ça passe. Le son, c'est souvent des basses fréquences, ça passe par les zones érogènes, ça passe par. C'est comme une espèce de redécouverte, je pense, ou en tout cas, je l'espère. J'espère que les gens l'expérimentent comme ça, une redécouverte des endroits du corps qui s'endorment petit à petit, à cause des nomades de vie, à cause de ce qui se passe autour de nous et tout.
Alors, justement, parlons du son. En fait, et pour revenir à cette installation, court-circuit, le son, il est localisé en fait dans cette installation, dans un point précis. Et en fait, il ne peut toucher le public que dans un périmètre défini.
Ouais, pour celui-là, ouais, c'est. Après, les basses, ça voyage loin. Donc, ce qui m'intéresse avec les basses, c'est que on les sent avant de les voir entre guillemets. Quoi. Et ça peut être un vrombissement. Ça fait penser, là en l'occurrence, avec le caisson de basse, ça fait penser à quand on se balade sous une ligne haute tension, enfin un truc pas très agréable. On parle aussi beaucoup des gens électrosensibles et tout. Une espèce de truc qu'on ne sait pas ce qu'il y a, mais par exemple les gens qui viennent manger une crêpe en face, ils vont passer un sale repas ou ils vont s'engueuler, ils ne savent pas pourquoi, mais en fait c'est parce qu'il y a un vrombissement qui les énerve ou on ne sait pas, ça pourrait être intéressant dans ce cas-là.
Oui, donc Nicolas, tout à l'heure, tu parlais de l'aspect précaire de certaines œuvres, d'une forme de fragilité, de risque de panne, etc. Et je me demandais, Thomas, si cet aspect-là était aussi une manière de se positionner dans un monde de l'art est un monde qui peut être, dans certains cas, un monde d'argent, de vente, voire de luxe, pourquoi pas.
Un peu malgré moi en fait, en fait j'aimerais bien vendre des trucs mais c'est bizarre, ça se vend pas du tout. Donc c'est pas non plus un placement politique, je m'intéresse à cette précarité en général. Et c'est vrai que peut-être que le monde de l'art y est pas étranger non plus, mais si si ça pouvait se vendre et être exposé en Chine et partout ailleurs, comme des peintures ou quoi, ça, je ne serais pas contre du tout.
Ouais, mais quand même, dans ce parcours, il y a quand même quelques lieux prestigieux, le palais de Tokyo, la Villa d'Arson, etc.
Bah oui, mais après, l'institution et le marché, même si elles communiquent, c'est deux choses différentes au final. L'institution, à la base, elle n'est pas censée faire de bénéf sur les choses, donc elle prend un peu plus de risques dans ce qu'elle montre quand elle accepte de montrer des fils électriques dénudés ou des choses qui peuvent prendre feu, quoi. Ça, c'est pas gagné à chaque fois.
Justement, en dehors du fait d'exposer les œuvres en question de la part d'institutions, quel est le retour que vous pouvez avoir?
Ils m'invitent, donc j'imagine qu'ils aiment bien, mais on parlait plutôt de pourquoi est-ce que des lieux comme ça invitent un travail comme ça, et par rapport à la question précédente sur le marché de l'art, c'est que les institutions sont pas censées forcément faire du bénéf, et prennent plus le risque d'inviter des pratiques qui sont plutôt non commerciales en fait. Mais moi, depuis que j'ai commencé, je travaillais autant dans des institutions que dans des friches ou des lieux complètement paumés. Moi, l'intérêt que j'ai là-dedans, c'est que dans les lieux paumés, je peux me permettre, dans une usine de poissons frits abandonnée en Islande ou en Afrique, de faire des trucs complètement zarbi, plus dangereux, parce que bon, voilà, il y a moins de public et je suis toujours plus ou moins là. Le truc, c'est que personne ne vient, donc il y a très peu de public, et dans l'institution, il y a une visibilité qui est sans commune mesure en fait. Et les deux sont intéressants. Et en général, quand le travail est exposé en institution, je rentre pas dans l'art à vouloir absolument faire quelque chose de dangereux pour faire quelque chose de dangereux. Je louvoie, quoi, et ça, c'est toujours des contraintes, un travail, quoi. Que ce soit des contraintes techniques ou des contraintes d'ordre structurel ou politique, donc ça fait évoluer le travail à chaque fois.
Mais est-ce que le passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire des lieux marginaux vers l'institution ou l'inverse, est-ce que ça se fait automatiquement, ou est-ce qu'il y a quand même cette notion de séparation, de frontière entre les deux?
C'est comme la plomberie ou l'électronique, ça s'expérimente. Au début, on est là, je comprends rien, ça va pas, et on apprend à réagir. Au final, moi, j'ai pas encore tout compris, mais là, ça fait quand même quelques années, et je commence à savoir ce qui m'intéresse dans les deux domaines, et à faire en sorte de que ce soit toujours une expérience, soit l'un, soit l'autre. En gros, dans les lieux alternatifs, il y a énormément de liberté, mais il n'y a pas une thune et peu de public. Dans les grosses institutions, il y a quand même un peu de fric pour produire quelque chose, énormément de public, mais des gens avec qui on n'a pas toujours envie de discuter, quoi.
L'autre question que je me posais, ça revient au processus de travail, c'était de savoir, est-ce que vous documentez votre travail? Est-ce que vous avez des carnets, par exemple, dans lesquels vous notez les expériences que vous vivez dans la mise en œuvre des choses?
Je fais énormément de carnets, mais ça ressemble à moitié à un carnet de un menuisier qui serait sorti de l'hôpital psychiatrique et qui devrait prendre des notes sur lire Simondon, c'est des mélanges comme ça avec des dessins au milieu. Et sinon, la documentation, elle est capitale pour diffuser le travail, parce qu'en général, il y a beaucoup de one shot, c'est des installs qui durent qu'une soirée. Par exemple, au Vendeur-Liébert, on a mis en place cette dimension d'opéra où on fait des expositions dans notre lieu, mais c'est que pour une soirée. Du coup, là, on prend aussi des libertés parce qu'on, au niveau de la durée de vie des choses, on sait que c'est comme une célébration, comme un banquet. Ça peut partir en fumée ou être détruit à la batte de baseball par le public à la fin, c'est pas grave. Mais il faut que les choses circulent. Et que ce soit pour une édition ou sur le net, avoir. Moi aussi, le travail, c'est toujours un peu des sculptures sonores et cinétiques et tout. Et toujours faire un petit film d'une minute, qui n'est pas une vidéo en soi, mais qui est quand même une documentation de ce qu'on ne peut absolument pas transcrire en photographie.
Et est-ce qu'il vous est arrivé de maqueter votre travail ?
Non, jamais. Je maquette en live, échelle 1.
Pour d'autres projets, ça pourrait s'imaginer pour un... enfin, je sais pas.
Ouais, pourquoi pas, mais je préfère vraiment avoir les mains dans le moteur et être sur place. Et passer du temps dans l'espace. Et voilà, faire les choses en direct.
Alors justement, en parlant d'espace, est-ce que cet espace de la Vrac, donc cette vitrine avec voilà, c'est 3 mètres sur 3 mètres, je sais plus, je connais plus exactement
les...
Ouais, pas tout à fait 3 mètres. Est-ce que ça vous convient comme espace ? Est-ce que vous avez dû adapter des choses
ou... Non, moi ça m'a plu à la base, mais tout s'est pas passé comme prévu, comme souvent. Mais je voulais qu'il y ait beaucoup plus de bouteilles. Et j'ai fait une pièce à l'école où pendant une exploration nocturne, on était tombé sur le stock d'Urnavot de la ville de Nice. Qui étaient des magnifiques boîtes en plexi avec marqué Ville de Nice dessus qu'on avait piqué. Et j'étais vraiment dans la distillation à l'époque. Il y a une technique qui s'appelle la digestion, qui est une technique où on porte le mou à l'intérieur d'un contenant, pas à ébullition, mais on le chauffe à 80. Les vapeurs d'alcool se diffusent et se condensent sur le contenant extérieur et retombent au fond. Et on récupère l'alcool au fond. Et j'ai tout de suite pensé à ça avec la vitrine, en fait. Bon, là, la pièce n'est pas finie, mais normalement, je vais chauffer le surplus avec une plaque chauffante. Et imaginez que l'alcool se condense contre la vitrine et aussi qu'il y a un peu un contresens avec la vitrine parce que la vapeur d'alcool obstrue, enfin, la buée. Brouille la vision et en même temps c'est la vitrine elle-même qui est cet objet qui est censé rendre contemplatif contre un objet ou une marchandise qui elle liquéfie l'alcool et peut-être que ça coule un petit peu dans la rue.
Donc ça veut dire que vous allez jouer de cette interface de la vitrine, cette interface qu'il y a entre l'œuvre et le public en fait.
Bah oui, c'est impossible de pas en jouer, je pense. La France a marqué.
Alors, on avait raté le premier but, mais le deuxième, voilà, on l'a eu.
2-0. Non, je pense que c'est compliqué. En tout cas, mon travail, même s'il y a énormément de travail à l'atelier, il est toujours fini sur place. Il est toujours très souvent contextuel. Ça m'emmerde de poser quelque chose au milieu d'un espace comme je le poserais ailleurs. Et juste un truc d'architecture ou de contexte ou de machin, mais je pense que c'est là qu'on finit de... C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est vraiment la fin de la bouture, quoi. C'est là que le travail s'ouvre, en fait, et se met à respirer.
Est-ce qu'on peut parler des projets à venir ?
Ouais, normalement, si j'arrive à avoir mon visa, je pars en Chine cet été. Faire une exposition à Wuhan avec un ami chinois qui m'invite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Pour l'instant, je m'occupais surtout d'un visa. Avec les ateliers Von der Lieber, on sera en résidence de fin août à mi-septembre à Mécènes du Sud, Montpellier. Je pense que le vernissage, c'est le 14 ou le 15. On descend avec tout le collectif et ça va être un grand bordel, comme d'habitude. Et sinon, plein de petits bouts de trucs, mais rien de...
Merci beaucoup, Thomas Torlet.
Merci.